Radio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Djundjuri, même heure dans l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur, dame, bonjour et bienvenue aux informations. Voici les titres. Ibeka annonce l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Agagali et Amadou Koufa. C'était hier sur les antennes de RFI et France 24. Pour l'opposition, ce n'est pas la solution. Retour de l'armée à Kidal. Selon Ibeka, l'armée reconstituée devrait arriver dans la ville vendredi prochain. Le premier contingent a quitté hier Gao pour Kidal, indique des sources militaires. L'année 2019 a été la plus meurtrière au Mali depuis le début de la crise, selon le dernier rapport de Human Rights Watch. Selon l'ONG, plus de 450 personnes, dont des enfants, ont été tuées par des milices et des groupes djihadistes. Présentation, Mariam Maïga, Mamadi Keïta assure la technique. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce lundi sur RFI et France 24 l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Agali et Amadou Koufa. Une première pour Ibeka qui s'était opposé à toute négociation avec les djihadistes. Mais il y a quelques semaines, son haut représentant pour le centre a annoncé l'envoi d'émissaires en direction des deux responsables de mouvements djihadistes. Écoutons le président de la République au micro de nos confrères de RFI et France 24.
Je crois que quelle que soit l'âpreté d'un combat, et Dieu sait que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous citez les noms, mais j'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Djongouda n'ira pas lui-même rencontrer telle ou telle personnalité, mais Djongouda est en mission de moi. Il est mon représentant, donc il a le devoir également d'écouter tout le monde et de voir si tel ou tel dans l'entourage de tel de cela peut être sensible à un discours de raison.
Pour l'opposition, cette décision du président de la République n'est pas la bonne solution. Selon Nuhum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition, le dialogue n'est pas possible avec les djihadistes. Il estime que cette négociation montre d'ailleurs la faiblesse des forces armées maliennes. Nuhum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition, est joint par Aissata Diarra.
Une contradiction entre le ministre des Affaires étrangères et son président de la République. Ça veut dire que tout simplement qu'on gère le pays par tâtonnement. Il n'y a pas de logique. On ne coordonne pas les activités et les opérations. Sinon, Kéblin a été très clair. Aujourd'hui, pour nous, nous pensons que négocier avec qui? Iyad Agali, Koufa, ceux qui ont mis le pays à genoux, ceux qui ont tué, violé, continué toujours à tuer. Donc, il faut négocier avec eux. Ça veut dire qu'ils montrent encore la faiblesse de notre force armées et de sécurité. Aujourd'hui, négocier avec un terroriste, c'est de perdre nos partenaires sur le plan international. Aujourd'hui, négocier avec un terroriste, c'est de reconnaître après avoir tué ou il continue à tuer les gens. Alors négocier donc avec eux, nous ne pensons pas aujourd'hui qu'au niveau de l'opposition que c'est une solution.
Le bataillon de l'armée malienne reconstitué a pris ce lundi 10 février dans l'après-midi la route de Kidal. Ils sont plus de 300 éléments et devraient arriver dans la ville de Kidal ce vendredi. Ce nouveau bataillon des forces armées reconstituées est composé des militaires de l'armée régulière, de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme. Devenez un label du Studio Tamani en rejoignant notre communauté sur Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Parlons d'élections législatives. Après Bamako et Kay, la semaine dernière, nous nous intéressons à la région de Mopti, où les autorités sont à pied d'œuvre pour une bonne organisation du scrutin du 29 mars. À Bankas, la préfecture enregistre quelques dépôts de candidatures, contrairement à Douanzan, où aucune candidature n'a encore été déposée. C'est ce que nous dit notre reporter Maliki Diallo.
Pour les législatives du 29 mars, les candidats n'ont désormais que 3 jours pour faire acte de candidature. À Bankas, dans la région de Mopti, tout se passe bien pour le moment, selon le préfet, qui confirme le dépôt de quelques candidatures.
Nous sommes en train de recevoir les dossiers de candidature. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 3 dossiers déposés. Donc ça veut dire que tout se passe normalement pour le moment.
À Ténénkou et Koro, des candidats ont retiré les formulaires. Les préfets des deux villes confirment également avoir reçu quelques candidatures. Contrairement à ces localités, la préfecture de Douazan, toujours dans la région de Mopti, attend impatiemment ses candidats. Massa Sankaré, préfet de Douazan.
Rassurez-vous que nous sommes bien structurés. Il y a déjà le bureau en place qui a la charge de mettre à la disposition différents candidats potentiels, les fiches de candidature. À ce jour, déjà, on a eu repère des fiches de candidature. Premièrement, deuxièmement, c'est qu'il n'y a aucun dépôt d'abord pour le moment, aucun dépôt de dossier pour le moment à notre ministre.
Dans cette région du centre du Mali, le rétablissement de la sécurité demeure le défi principal à relever pour la bonne organisation du scrutin. Rappelons que beaucoup de circonscriptions de la région n'ont pu voter au communal de 2016 et à la présidentielle de 2018.
La date limite de dépôt des candidatures est donc fixée à ce jeudi 13 février à minuit. Un autre titre de l'actualité du jour, la localité de Lelohui dans le cercle d'Ansongo se vide de sa population. Sommés de quitter le village par les groupes djihadistes, de nombreux habitants ont fui le village. Plusieurs d'entre eux sont déjà arrivés dans la ville d'Ansongo. Ces déplacés sont dans la cause totale et demande aux autorités de les sécuriser. Hawa Berthe.
Tous ceux qui avaient le moyen de quitter le village sont partis. Seuls ceux qui n'ont pas le moyen sont restés, a dit un habitant sous couvert de l'anonymat. La localité de Lelohui, située à une dizaine de kilomètres d'Ansongo, ressemble à un village fantôme depuis la menace des groupes djihadistes. Ils nous ont menacé de s'en prendre à nous si nous ne partions pas d'ici. Ils sont venus exécuter un habitant hier, poursuit notre interlocuteur. Selon des sources locales, tout est parti de l'assassinat de cet habitant du village par les présumés djihadistes ce week-end. La victime en levé depuis quelques jours plus tôt, était accusé par ses bourreaux d'avoir collaboré avec la force française Barkhane. Et il aurait d'ailleurs témoigné à visage découvert dans un reportage sur la chaîne française France 24. Après cet assassinat, les présumés djihadistes ont demandé à la population de quitter le village avant quelques jours sous peine d'être tués. Aussitôt après cette menace, les habitants de Lelohui, avec à leur tête le chef de village, ont commencé à plier bagages. Aujourd'hui, plus d'une dizaine de familles déplacées sont arrivées à Ansongo. Plus d'une trentaine autres ont quitté pour d'autres localités. Au même moment à Ouattaguna, où deux personnes ont été assassinées, plus d'une dizaine de familles ont déjà quitté le village pour Gao. Actuellement, la mairie de la localité est fermée.
C'était là un reportage de Moussa Malé Sissoko, lieu de Hawa Berthe. 2019 a été l'année la plus meurtrière pour les civils depuis le début de la crise de 2012. C'est ce qu'indique Human Rights Watch dans son dernier rapport sur le Mali. L'ONG alerte également sur les lenteurs judiciaires. Les détails avec Fatih Yattara.
Selon ces rapports, plus de 456 personnes, dont des enfants, ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans des attaques perpétrées par des groupes armés. Human Rights Watch précise que ces attaques ont majoritairement ciblé des personnes civiles et militaires dans le nord et le centre du pays. Les groupes islamistes armés ont continué de menacer et tuer les villageois qu'ils estimaient avoir collaboré avec les forces armées, poursuit les documents. De ces rapports, il ressort également que ces présumés djihadistes ont imposé leur version de la charia dans plusieurs villages. Ainsi, 225 000 enfants n'ont plus droit à l'éducation. Human Rights Watch indique aussi que des militaires maliens ont tué plus de 60 hommes soupçonnés de soutenir le groupe islamiste armé. Enfin, le document fait mention de la morosité du système judiciaire malien. Des centaines de personnes détenues de façon prolongée sans jugement. Et peu d'enquêtes sur les phénomènes récents de violences communautaires et d'exactions commises.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Yorosso, où plus de 30 jeunes du cercle ont pris part ce dimanche à l'atelier de restitution des jeunes sur les droits de l'homme et les modes de saisine des juridictions. L'objectif visait à partager les connaissances acquises sur les droits humains et d'expliquer les différents modes de saisine des juridictions en vue de favoriser l'accès à la justice. L'atelier est organisé par le Centre d'assistance et de promotion des droits humains et financé par l'ambassade du Danemark à travers le fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Une trentaine de membres de comités villageois d'assainissement et de services techniques ont renforcé leurs compétences sur la gestion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la communauté ce week-end à Kuchala. Elle a été organisée par l'ONG AlphaLog et financée par l'UNICEF. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue. We'll be right back.
Sido Tamani.